En tout cas, merci pour ce temps. Et on va ouvrir les Écritures. Hein. Notre foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Pas de Jean-Marc, hein, mais du Christ. Hein. Amen. Et on accueille Jean-Marc et on bénit le Seigneur pour voilà, cette amitié. Vous savez, lorsqu'on voit des clips comme ça, on dit « Waouh, c'est super !» Mais sachez une chose, c'est que... Il y a tout un travail derrière de relations, de connexions, d'alignement. Hein, et depuis 30, 35 ans, au travers des différents réseaux, révélations aussi que le Seigneur amène dans nos vies, parce que nous allons de gloire en gloire, de révélation. Nous sommes, comme dirait notre Jean-Marc, dans le renouvellement de toutes choses. Hein. Nous accueillons, il y a des personnes nouvelles qui, je crois, sont touchées par l'Esprit ce matin. Amen. Accueillons. Vous savez, il est important de ne pas mépriser les petits commencements, mais de discerner quel est le mouvement de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de produire? Amen. Et donc, merci Jean-Marc et Daniel. Voilà, on peut les accueillir. Ils viennent de la région de Auch. Si vous ne savez pas où c'est là où il y a le foie gras, où on mange très bien. C'est à 1 heure de Toulouse. Hein.
Merci. Très heureux d'être avec vous à nouveau, puisqu'on était là il n'y a pas si longtemps, finalement. Et donc, on se réjouit de partager encore cette communion et de voir l'œuvre que Dieu fait parmi vous et qui nous réjouit. Alors, on vient bien sûr d'une région qui est connue pour sa gastronomie, mais on n'entrera pas en concurrence avec la région lyonnaise, pour autant. Hein. Au début de cette année, nous étions ensemble avec tous les responsables du réseau Nouvelle Connexion. Et une conviction s'est imposée dans nos cœurs, c'est que Dieu était en train de faire une chose. C'est un texte de l'Écriture qu'on va relire, mais que je cite dès maintenant. Que Dieu était en train de faire dans ces temps dans lesquels nous sommes, une chose que nous ne croyons pas, même si on nous l'a racontée. C'est un texte de l'Écriture qu'on trouve dans Habacuc, chapitre 1, verset 5. Dans un contexte troublé au niveau des nations, alors qu'une nation est en train d'envahir tous les autres pays qui l'environnent pour étendre son pouvoir et son hégémonie, un temps donc troublé sur le plan politique, sur le plan militaire, comme nous le vivons aujourd'hui, et je ne vous rappellerai pas les événements récents et aussi de ces dernières heures qui montrent combien le contexte dans lequel nous sommes est un temps troublé. Et dans ce temps-là, un temps de crise, Dieu parle. Et on se réjouit de ce que ce matin, on est là dans la présence de Dieu. Et malgré l'environnement dans lequel nous pouvons être individuellement ou sur le plan de nos nations, nous savons que Dieu parle. Et qu'est-ce que Dieu dit? C'est qu'au sein de ces situations troublées, confuses, dans lesquelles personne ne sait plus dans quelle direction aller, eh bien Dieu est en train de faire une chose que nous ne croyons pas, même si on nous l'a raconté. Ça, c'est le Dieu que nous célébrons ce matin, ce Dieu merveilleux, ce Dieu dont l'amour nous submerge, nous dépasse, ce Dieu que nous voulons encore connaître, dans la présence de qui nous voulons nous tenir, de façon à pouvoir résister dans les moments dans lesquels nous nous trouvons. Je sais que vous êtes dans ce temps-là, en tant qu'Église, dans un temps de renouvellement, un temps de changement, un temps de tradition, de transition, je n'ai pas dit tradition, j'ai dit de transition, un temps dans lequel peut-être, auquel certains avaient peut-être espéré, soupiré, après lequel ils avaient soupiré, mais que Dieu est en train d'accomplir. Et je pense que le temps dans lequel vous êtes est un temps dans lequel Dieu fait quelque chose que vous ne croyez pas. Même si vous le voyez, même si vous le discernez, même si vous le ressentez déjà, Dieu fait en ce temps-là, dans votre Église, une œuvre que vous ne croyez pas, même si on vous l'a racontée. Et quand je dis ça, c'est simplement pour nous placer devant la souveraineté de Dieu. On a nos idées, on a nos espérances, on a nos espoirs, mais en fait, Dieu fait toujours au-delà, infiniment au-delà, vous savez. Et cette parole-là, parce qu'elle nous révèle qui est Dieu finalement, c'est pas une parole pour nous donner un peu d'espoir comme ça, l'espace d'un dimanche matin pour regonfler un peu nos batteries, c'est une parole qui nous révèle la façon dont Dieu agit. Il fait au sein des circonstances les plus troublées, les plus confuses, toujours quelque chose qui nous dépasse et qui nous projette en avant dans l'accomplissement de son projet. Cette parole, l'apôtre Paul va la reprendre dans un tout autre contexte. C'est dans Actes 13, verset 40-42, je la lis pour vous. « Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dans les prophètes, ce qui est dit dans les prophètes. Voici, vous qui êtes pleins de mépris, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Là, le contexte est tout à fait différent. Ce n'est plus un contexte de trouble sur le plan des nations, c'est un contexte dans lequel l'Évangile est annoncé au-delà du peuple juif. Au départ, les apôtres annonçaient l'Évangile au peuple juif, et puis bientôt les païens, les nations qui n'étaient pas héritières des promesses de Dieu, sont aussi touchées par l'Évangile. Et l'Évangile est en train de pénétrer une sphère de la société qui ne le connaissait pas. Elle découvre. Et là, il y a des gens qui regardent, qui critiquent. C'est ces gens dont l'Écriture dit qu'ils sont des contempteurs. Vous savez, c'est un mot un peu compliqué, ça, mais c'est traduit ici par « vous qui êtes plein de mépris ». Et Dieu leur dit « disparaissez ». Vous connaissez ce Dieu qui dit ça aussi à ceux qui sont pleins de mépris ? On loue, on célèbre le Dieu de grâce. Et en même temps, nous savons que ce Dieu de grâce, d'amour, qui nous accueille, c'est aussi le Dieu qui avance dans ses projets, qui nous entraîne. Mais si on résiste à ses projets, si on résiste à son plan, il y a un moment donné où, évidemment, on peut être aussi écarté. Mais nous, on ne veut pas être de cela, n'est-ce pas ? On ne veut pas être de ceux qui sont là, qui observent l'œuvre de Dieu, qui disent « oui, mais vous croyez vraiment que, est-ce que vraiment les choses vont pouvoir se produire ? Est-ce que vraiment Dieu va faire des choses inattendues ou comme on l'entend ? » Est-ce que... Non, on ne veut pas être comme cela dans le mépris. Le contraire de la foi, ce n'est pas l'incrédulité au sens de ne pas croire. C'est aussi le fait de mépriser ce que Dieu va faire. De ne pas s'attendre à ce qu'il va faire de grand, d'inouï. Et ce matin, s'il y a une chose dans laquelle Dieu veut nous propulser, c'est de nous faire passer de ce qui peut être une forme de mépris ou d'incrédulité ou de résignation ou de passivité à une dimension de foi et d'anticipation dans ce qu'il va faire de grand et de beau. Dans nos vies, quels que soient les contextes dans lesquels nous sommes, dans l'Église, ici, le tabernacle, évidemment, mais l'Église, de l'Église universelle dans notre pays et dans notre nation. Dieu est le Dieu qui fait des choses nouvelles, des choses inédites. Il y a quelque temps, on m'a prêté un ordinateur parce que j'avais oublié le mien, bon ça c'est le détail, mais tout d'un coup j'ouvre cet ordinateur dont je ne dirai pas la marque et je lis la phrase, vous savez il y a toujours une phrase un peu de marketing dans chaque marque qui dit « à la recherche de l'incroyable ». Alors pour ceux qui ont ce même type de marque, vous savez de quoi je parle, mais peu importe, à la recherche de l'incroyable. C'est exactement l'attitude dans laquelle nous devons être. L'attitude de recherche, d'anticipation de ce que Dieu va faire de nouveau. Dans sa révélation, dans son projet, dans son intention, dans nos vies, nos églises, nos situations ne vont plus ressembler à ce que nous connaissons, à ce que nous avons connu, toujours connu, parfois subi. Mais parce qu'il y a une œuvre de Dieu. Je ne dis pas que tout sera facile. Je ne dis pas que tout sera selon nos aspirations. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont changer radicalement et qui vont nous ouvrir à une plus grande dimension de sa gloire et de sa présence. Et son royaume va grandir et va se manifester. C'est ça notre espérance. À la recherche de l'incroyable, non pas comme ça, comme une invention humaine, mais à la recherche de l'incroyable pour nous, mais qui est pourtant l'actualité de ce que Dieu fait. Dans ce sens, j'ai prêché là-dessus à la rencontre de notre réseau des responsables en septembre, et puis le mois passe. On se dit, mais qu'est-ce que Dieu fait de si incroyable que ça ? Ben, je crois que ce que Dieu fait, et je parle là aux membres de cette communauté, et vous, peut-être vous comprenez à quoi je fais allusion, ce que Dieu fait actuellement dans ce temps de transition, ce temps de nouvelle gouvernance, ce temps d'évolution, il y a quelque chose de nouveau que Dieu fait, que peut-être on n'aurait pas cru, mais pourtant que Dieu accomplit vraiment. Et je voudrais vous raconter aussi autre chose que j'ai vécu ces derniers jours, qui était aussi de l'ordre de l'incroyable. J'étais à Yaoundé, au Cameroun, pour l'investiture officielle du nouveau gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, qui est un chrétien, qui est membre d'une de nos églises de RNC. On dirait que c'est un peu loin, on voit peut-être pas d'ici toute l'ampleur de ce qui s'est passé, mais dans cette région, cette sous-région d'Afrique, voilà qu'un chrétien vient d'être nommé gouverneur de la Banque centrale. À un poste important, une banque qui régit toute la vie financière, économique et monétaire de 6 pays, 6 nations, un homme qui craint Dieu, un homme qui marche avec Dieu. Jusque-là, c'était des gens qui étaient d'autres confessions et parfois d'autres pratiques et d'autres spiritualités. Je ne vais pas les nommer ici, mais vous pouvez imaginer. Et qui étaient ici, dans ces postes-là, avec, au service de leurs idéaux ou parfois de leurs propres intérêts. Et là, maintenant, Dieu établit un homme qui va chercher l'intégrité au lieu de la corruption. L'homme qui va chercher la justice au lieu de l'iniquité et qui va chercher à servir Dieu au sein d'une sphère centrale pour la vie de pays et d'une région comme celle de l'Afrique centrale. On n'aurait jamais cru ça. J'ai vécu ce moment, il y a eu l'investiture officielle, donc devant toutes les autorités, et voir un chrétien être là, positionné, et sachant ce qu'il anime, la foi qu'il anime, sachant le cœur dans lequel il se trouve, sa volonté de service et de transformation aussi dans lequel il est, ça c'est bouleversant. Et puis ensuite il y a eu un culte d'établissement, un culte dans lequel, avec tous les croyants réunis, il y avait à peu près 1 million de personnes, eh bien on a prié pour cet homme, on l'a entouré. Et cet homme s'est engagé à servir Dieu dans son métier, dans sa position là, dans la sphère où Dieu l'avait placé. Il s'est engagé à servir Dieu de tout son cœur. Et toute l'Église s'est unie pour le soutenir et l'accompagner dans la prière. Les jours ont passé, c'est il y a quelques semaines, et jour après jour, je suis l'actualité de cet homme, et je vois combien Dieu l'ouvre les portes parmi les gouvernants, parmi les ministères, parmi les nations. Il est en ce moment à Washington, il est en train de défendre une politique monétaire de justice pour cette région du pays. Eh bien ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais cru. Ça fait partie de l'inédit. Ce qu'on annonce, ce que la Bible nous dit, ça devient réalité dans nos vies, mais aussi dans les nations. Et c'est ça qui nous enthousiasme. La parole de Dieu est actuelle, elle est réelle, elle n'est pas sans force, elle n'est pas sans fruit, mais elle s'incarne dans le quotidien de nos vies personnelles comme de la vie de toutes nos nations. Et je me réjouis d'adorer avec vous ce matin ce Dieu qui va nous transporter dans les temps qui viennent dans des dimensions qu'on n'imagine pas. Dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles, dans nos vies d'église, dans la dimension de son royaume pour ce pays, dans des dimensions que même si on en a rêvé, ça va encore dépasser nos rêves, dépasser notre imagination, parce que Dieu peut faire largement, infiniment, au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Amen. Ça c'est le Dieu que nous célébrons, n'est-ce pas? Mais c'est pas si facile. Alors après avoir dit tout ça, je ne veux pas faire tomber la foi, mais ce n'est pas si facile d'entrer dans ce que Dieu fait de nouveau. Parce qu'il y a à la fois cette aspiration dont je viens de parler, que le Saint-Esprit anime et alimente dans nos cœurs, et puis il y a nos résistances, conscientes ou non. Il y a nos peurs, il y a nos craintes. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que c'est bien de Dieu? Comment est-ce qu'on peut faire pour avancer avec courage, avec sécurité, dans ce que Dieu fait de nouveau? Et pour ne pas résister, pour ne pas être dans la crainte, et encore moins dans le mépris, comme ces gens dont Dieu dit, allez, vous qui êtes plein de mépris, disparaissez. Non, on ne veut pas ça. On veut être au contraire entraîné dans le mouvement de Dieu. Alors je voudrais vous proposer quelques critères que l'Écriture nous donne à travers l'exemple de Pierre. L'apôtre Pierre qui a vécu une expérience incroyable, justement, inattendue pour lui, dans laquelle Dieu l'a amené à entrer dans des choses totalement nouvelles, totalement inédite pour lui. Et on va le suivre dans ses réflexions, dans son parcours, et voir comment ça peut nous aider, nous, en tant qu'Église, en tant que croyants, en tant que peuple de Dieu, comment ça peut nous aider à trouver des critères, à trouver des repères pour dire, Seigneur, dans ce que tu fais de nouveau, c'est bien toi. Si c'est toi, je veux avancer avec toi. Ce passage auquel je fais allusion, c'est un moment crucial. Pas simplement pour la vie de Pierre, mais crucial pour la vie du peuple de Dieu de l'époque. En effet, Pierre, jusque-là, annonçait l'évangile, je l'ai dit tout à l'heure, au peuple juif seulement, héritier des promesses. Et à un moment donné, il est sur une terrasse dans la maison de Simon le corroyeur. Il est dans une ville de Jaffa, si ma mémoire est bonne, et là, il a une vision. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre, une nappe apparaît, des animaux que la Bible qualifie d'impurs lui sont présentés. Et une voix se fait entendre et lui dit « Lève-toi, tue et mange. » Et Pierre, à ce moment-là, réagit avec tout ce qu'il sait, tout ce qu'il connaît, tout ce qu'on lui a appris. Tout ce qui fait sa culture, tout ce qui fait sa foi, tout ce qui fait son identité. Il dit, mais jamais, jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Impossible. Et la voix revient jusqu'à trois reprises. Lève-toi, tue et mange. Perplexe. Il est perplexe. La Bible dit le mot perplexe. On est parfois nous perplexes devant des choses qui nous, des chemins nouveaux qui s'ouvrent, des nouvelles orientations, des choses qui vont heurter nos convictions, heurter nos habitudes. Perplexe. On a le droit. Et à ce moment-là, au rez-de-chaussée, voilà que des hommes arrivent et lui disent, tu sais, il y a, ça c'est Actes 10 et 11. Hein, je lis pas les textes, mais je les rappelle et vous pouvez le vérifier. Des hommes viennent de la part d'un certain Corneille. Corneille est un craignant Dieu, ce n'est pas un juif. C'est un militaire, mais qui craint Dieu. Et à ce militaire, Dieu lui est apparu et lui a dit, va chercher à Jaffa, va chercher Pierre, Simon Pierre, et il t'annoncera tout ce que tu dois savoir. Alors il envoie chercher Pierre, et ces hommes, ces envoyés, viennent lui faire savoir que voilà, il y a quelqu'un qui est païen, qui l'attend. Pierre se met en mouvement. Il entre dans cette maison après avoir parcouru le chemin et le trajet. Et là, il annonce l'évangile. Et dans cette maison composée de païens, Pierre vit quelque chose qu'il n'a jamais imaginé, quelque chose qu'il n'a jamais anticipé. Et pourtant, mais j'y reviens tout à l'heure, il vit quelque chose de tout à fait inédit. Le Saint-Esprit vient sur ces gens. La Bible dit qu'il tombe sur toute cette maison, qu'il découvre l'amour de Dieu et qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu. Et une porte va s'ouvrir. Une porte va s'ouvrir, pas simplement pour ces gens, mais une porte va s'ouvrir pour l'Évangile. Les nations vont s'ouvrir à travers cela. Et l'Évangile ne va plus être contenu dans le contexte juif, mais il va se répandre dans le contexte païen, ce dont nous sommes héritiers aujourd'hui. C'est un tournant stratégique pour l'Église, pour l'histoire de l'Église. Nous, on lit ça, on dit, bon voilà, c'est une belle histoire. Mais c'est plus que ça. C'est une évolution inédite et incroyable dans la stratégie de Dieu pour que toutes les nations soient touchées. Mais mettons-nous à la place de Pierre. Cet homme qui vit à ce moment-là, et comme nous, quand on est devant ce que Dieu fait de nouveau, parfois on peut être amené à vivre des ébranlements intérieurs. Et il le faut. Les temps dans lesquels nous sommes nous ébranlent, évidemment. Toutes les sécurités disparaissent. Ça a commencé par les sécurités sanitaires, avec le Covid et tout ce que cela a entraîné. Mais l'insécurité économique, comme une conséquence. L'insécurité sur le plan aussi de tout ce qui est menace sur le plan de terrorisme, menace de guerre. On vit une accumulation de troubles et de secousses qui sont incroyables. Je crois que c'est peut-être la première fois depuis les dernières guerres mondiales qu'autant de crises s'accumulent, autant d'insécurités viennent. On est ébranlés. Et dans ces temps-là, eh bien, on cherche ce que Dieu veut nous dire, ce que Dieu veut faire. Et c'est dans ce temps-là que Dieu veut nous amener à vivre des choses nouvelles et veut nous amener à nous ouvrir à une dimension de son royaume et de son plan qu'on n'imagine pas. Revenons sur Pierre. Pour qu'il entre dans ces choses nouvelles et pour que nous entrions dans les choses nouvelles que Dieu veut faire pour nous, cet élargissement, vous savez, parfois dans la vie chrétienne, dans la vie d'église, on est un peu dans des murs, on est enfermé dans des traditions, des façons de voir, des façons de faire. Parfois, ça devient lourd même. Hein. On sait qu'il y a l'amour de Dieu, il y a la dimension de la plénitude de l'Esprit de Dieu, mais au quotidien, ce n'est pas toujours ce qu'on vit. Il y a donc des murs que Dieu veut faire tomber, il y a des horizons qu'il veut ouvrir, il y a des dimensions de sa présence dans lesquelles il veut nous faire pénétrer, il y a des percées de l'évangile qu'il veut faire dans toutes les couches de la société. Et là, alors que parfois on lutte, on prie, mais Dieu va accomplir ces choses. Et comme Pierre, on est là dans sa présence, et Dieu, alors le ciel ne va peut-être pas s'ouvrir ce matin, on ne va peut-être pas tous voir une nappe avec des animaux comme ça, et puis il nous voit... Mais il y a des aspirations. Pour Pierre, ça a commencé par une vision, c'est vrai, un peu dramatique, mais les changements que Dieu veut opérer dans nos vies commencent toujours par une vision aussi, aussi, aussi forte, mais par des intuitions, par des révélations, par des aspirations qu'il fait naître en nous. Quelque chose qui, et si c'était vrai, et si on pouvait vivre, et si on pouvait entrer dans cette dimension. Et ça, c'est le domaine de la révélation qui vient. Il y a plein de rêves que Dieu a mis dans nos cœurs, et qu'on n'ose pas toujours, auxquels on n'ose pas toujours croire ou espérer. Plein d'aspirations. Et si elles viennent de Dieu, eh bien, il faut y prêter attention. Et les changements que Dieu veut opérer commencent par cela. Je me souviens, quand j'étais tout jeune dans la foi, cette révélation de ce qu'on appelle aujourd'hui le royaume de Dieu, c'est-à-dire le fait que l'évangile n'était pas simplement pour la dimension individuelle, mais pour le rayonnement, pour l'impact dans la société, pour transformer l'environnement dans lequel on est, pour amener les nations à être des disciples de Christ. Cette révélation a commencé alors qu'à l'époque, et je sais que plusieurs sont dans ce cas, personne d'autre n'en parlait. Personne n'en parlait. On parlait du salut individuel, on parlait du salut de l'âme. On dit voilà, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé et tu iras au ciel. C'était le seul horizon dans lequel on était. Et moi j'étais là, je cherchais du sens, cherchais une raison de vivre, cherchais une vision du monde qui me donne envie de m'engager et d'espérer pour quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la vision du royaume de Dieu, mais qui était à l'époque absolument pas à l'honneur. Personne n'en parlait vraiment. Et cette aspiration-là, elle est née comme ça. On se dit, mais est-ce qu'on est seul à espérer cela? Est-ce qu'on est seul à entrer dans cette dimension? Plus tard, ça a été la révélation des différents ministères. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, etc. La conviction, de par la parole de Dieu, que cette révélation, elle est pour aujourd'hui. Il y a un secret, il y a un mystère, il y a une dynamique, il y a une puissance dans cette révélation pour le réveil de l'Église et pour la transformation de la société. Il y a quelques années, personne n'en parlait non plus. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Ou presque. Et ça devient une évidence. Mais quand ça s'est révélé dans nos cœurs, c'était une aspiration comme ça que Dieu mettait en nous et auquel on n'osait même pas croire. Et puis je pourrais encore en multiplier des exemples comme cela. Ça commence par une révélation. Je crois qu'il faut suivre ce que Dieu nous montre, ce que Dieu met en nous comme aspiration. Peut-être pour ton lieu de travail, peut-être pour l'église ici, pour je ne sais quelle, pour la sphère dans laquelle tu es engagé sur le plan professionnel. Il y a une aspiration, il y a un rêve, il y a quelque chose que Dieu fait naître, une espérance là. Ça commence comme ça. Mais en même temps, on n'ose pas trop y croire. Alors, il y a un secours qui vient. Deuxième critère, c'est la parole de Dieu. Pierre n'a pas été seulement au bénéfice d'une vision, il a entendu la parole de Dieu. Cette parole était audible. Aujourd'hui, nous entendons la parole de Dieu sur le plan prophétique, mais nous avons aussi une parole écrite. Et il faut que cette parole vienne soutenir la vision que l'on porte. Parce que sinon, la vision peut être l'effet de notre imagination, l'effet de nos ambitions, de notre façon de voir. Il faut donc que la parole de Dieu vienne étayer. Et il faut qu'elle vienne asseoir la vision que l'on porte, l'aspiration que l'on porte. Il faut qu'elle vienne la nourrir, qu'elle l'alimente, qu'elle l'assoie. Cette parole va s'ouvrir. Est-ce que vous croyez que cette parole, bien sûr, elle est définitive? On ne va jamais ajouter à la parole de Dieu. Mais ce que je crois, c'est qu'on a besoin aujourd'hui, pour entrer dans ce que Dieu fait de nouveau, que cette parole s'éclaire, qu'elle s'approfondisse, que bien des domaines qui nous sont cachés encore, qui nous sont fermés, s'ouvrent. Pour ceux qui lisent la Bible depuis longtemps, c'est ce qu'on vit au quotidien, pas au quotidien peut-être, mais régulièrement. Des textes qu'on a lus pendant longtemps, tout d'un coup, eh bien, ils s'éclairent à nouveau. On y découvre une nouvelle profondeur, une nouvelle dimension. Cette parole, elle est vivante, elle est éternelle. Et on a besoin d'un réveil de cela, dans ce niveau-là. Parce que dans notre milieu évangélique, souvent, on a limité la parole de Dieu à ce que nous en comprenons, à ce que nous en connaissons, à notre propre interprétation. Je me suis amusé il y a quelques jours à faire une blague à des pasteurs amis, comme ça on était en pastoral, et on parlait d'un sujet particulier, du statut de l'homme et de la femme, et je dis, il faut faire attention parce que des fois on dit, la Bible dit que. Et en disant ça, on ne dit pas nécessairement ce que la Bible dit, on dit ce qu'on en comprend, ce qu'on a toujours entendu. Et j'ai pris un exemple, alors... Ne me lapidez pas, je m'en vais dans quelques heures, donc laissez-moi le temps. Mais vous voyez, la Bible, alors, ne dites pas amen à ce que je vais dire, parce que c'est un piège, hein, donc c'est une question de piège. La Bible dit, l'homme est le chef de la femme. C'est écrit. Et qu'est-ce qu'on n'a pas tiré de cette formulation ? Pour entretenir la domination de l'homme sur la femme. Pour entretenir la suprématie des hommes sur le sexe féminin. Et on dit, la Bible dit que. Sauf que la Bible ne dit peut-être pas cela, vraiment. Nos traductions disent cela. Mais quand on fouille le texte, le mot chef, c'est le mot tête. Le mot tête n'a pas de connotation de domination. C'est aussi, il peut être aussi traduit et de manière tout aussi légitime par source. Et si vous lisez tous ces textes où il est dit Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et que vous enlevez le mot tête, ou plutôt chef, qui dans nos cultures est synonyme de petit chef, et donc connoté de domination, si vous enlevez ce mot et que vous le remplacez par source, je vous invite à le faire ça pour vous. Mettez-vous devant Dieu. Dieu est la source de Christ. Christ est la source de l'homme et l'homme est la source de la femme. Et ce n'est pas une transformation de la parole de Dieu, c'est la réalité. La femme est tirée de l'homme. Mais quand l'homme l'accueille, dans Genèse 1, il dit quoi ? Voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Ça veut dire qu'il parle de quoi ? D'égalité. Et Dieu l'avait même averti en disant il ne faut pas que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide, un secours qui sera son vis-à-vis. Et vous le savez, maintenant tous les livres en parlent, ça fait 40 ans qu'on le dit, mais aujourd'hui ça devient public, tout le monde le sait, j'ai l'impression de dire une banalité. Le mot aide, c'est pas un sens de service ou d'asservissement ou d'infériorité, c'est le mot secours. En hébreu, c'est un mot qui veut dire secours. Quand le psalmiste dit « Je lève les yeux vers l'Éternel, d'où me viendra le secours ?» Il ajoute « Le secours me vient de l'Éternel. » Et c'est le même mot qui est employé quand Dieu dit « Je lui ferai une aide. » Alors, je ne sais pas pourquoi les traducteurs, et c'est là où on est parfois, je suis en train d'être sur un terrain qui peut-être peut déstabiliser plusieurs, mais ça veut dire que nos traductions sont parfois un peu biaisées. Pourquoi dans ce texte-là, les traducteurs ont choisi de traduire par aide, quand il s'agit de la femme, quand il s'agit de Dieu, on parle de secours, alors que c'est le même mot en hébreu. Vous voyez la différence de... Alors la Bible dit que, oui, mais il faut aller au-delà, non pas de la Bible, mais au-delà de notre compréhension et de notre habitude technique. Et du coup, quand Dieu dit, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Toute la Bible parle de réciprocité entre l'homme et la femme, et jamais de domination. Il y a un ordre, il y a des responsabilités, il y a une complémentarité, mais il y a une réciprocité et qui ouvre un chemin de liberté, un chemin d'amour mutuel, de respect mutuel. Et ça change tout dans un contexte où les violences faites aux femmes dans notre nation sont si dramatiques, où tout le monde s'élève contre cela. Et parfois dans l'Église, eh bien, ces violences se répercutent aussi par une fausse interprétation de la Bible. Alors nous avons besoin que la Bible s'éclaire aussi. Constamment, d'un sens nouveau. Quand on a compris cette notion des ministères, eh bien, ça fait 2000 ans que la Bible en parle. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et enseignants. Mais ça fait qu'une trentaine, une quarantaine d'années que ce texte est en train de s'éclairer. C'est l'action de l'Esprit qui fait cela. Alors, dans ce que Dieu fait de nouveau, nous devons avoir le souci que nos révélations, nos intuitions, nos aspirations soient fortifié par la parole de Dieu, mais par une parole qui soit renouvelée, dont notre compréhension doit être renouvelée. Et je me réjouis de ce que la Bible et le Saint-Esprit est là pour éclairer notre intelligence. Vous savez, comme les disciples d'Emmaüs, quand ils quittaient la ville de Jérusalem pour rentrer tout triste après être désespérés suite à la crucifixion du Seigneur, le Saint-Esprit était là, et Jésus est venu avec eux et il leur ouvrit l'intelligence. Est-ce qu'on peut prier pour que dans tout ce que Dieu fait de nouveau, la parole de Dieu vienne éclairer notre intelligence et vienne éclairer cette parole, faire ouvrir tout ce qui a appesanti nos yeux, tout ce qui nous a voilé le projet de Dieu soit ôté et qu'enfin la véritable intention de ce que Dieu veut faire puisse être révélée. Dieu fait des choses nouvelles, y compris dans notre révélation de ce qu'on a cru parfois être juste, être bon, être, mais qui ont besoin d'être élargis, transformés à la dimension de son projet. Vision, aspiration, intuition, mais aussi parole de Dieu. Une parole, mais une parole éclairée. Et quand Pierre fait cela, il continue en disant, voilà, maintenant, il va falloir se mettre en route. Et Pierre s'est mis en route. Sur la révélation qu'il avait, il s'est mis en route. Il s'est mis en chemin. Il est parti de là où il était et il est allé jusque dans la maison de ce Corneille. Et là, j'ai l'impression que ça symbolise pour moi la marche par l'esprit. La marche par l'esprit, elle se fonde sur une révélation de Dieu, elle se fonde sur la parole de Dieu, renouvelée, une compréhension renouvelée, mais aussi elle entraîne une mise en œuvre, une mise en action. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent des révélations, beaucoup de gens qui ont des aspirations, mais qui ne se mettent jamais en mouvement dans le sens de ce que Dieu veut leur indiquer, dans le sens du chemin que Dieu veut leur ouvrir. Pierre va marcher par l'esprit, il va avancer dans ce que Dieu lui a montré avec un peu des tâtonnements. Est-ce qu'on a peur, nous, les chrétiens, de parfois tâtonner? Est-ce qu'on a peur de... Ben, on marche par la foi, non? Et cette marche par la foi, elle engage parfois eh bien, des questionnements. Mais si la vision est là, si la parole de Dieu est là, on avance, on va vers des choses nouvelles. Je crois que le peuple de Dieu est un peuple de novateurs, de pionniers. Pas un peuple qui cherche à maintenir les traditions, mais un peuple qui cherche à être dans le mouvement de l'Esprit de Dieu. Le peuple d'Israël suivait la nuée, et nous devons suivre cette nuée de sa révélation. Le mouvement de Dieu. On parlait de mouvement en commençant ce culte. Est-ce que vous avez le sentiment d'être dans un mouvement ou d'être dans une sorte de... Alors on a souvent fait ce jeu de mots, entre un mouvement ou un monument. Non, on ne va pas être dans un monument, on va être dans un mouvement de Dieu. Amen. On rêve de cette église qui est souple, agile entre les mains du Seigneur et qui avance dans des voies nouvelles, dans des compréhensions nouvelles. Ici, qu'est-ce que Dieu apprend à Pierre? C'est la parole de Dieu qui dit « Ne regarde pas comme impur, souillé, ce que moi j'appelle pur. » Pierre avait ses catégories. Les païens et les juifs, les purs et les impurs. Bah, ce mur est tombé. Je ne sais pas s'il a mangé de ces animaux après. Ce n'était pas la question. Je n'entre pas dans ce détail, dans cette discussion-là. Mais ça veut dire qu'il a été capable de se remettre en question et d'avancer dans des voies nouvelles. C'était ça ce que ça voulait dire. Et donc, du coup, de s'ouvrir à une population qui l'avait écartée de la grâce de Dieu. Nous, on est un peu comme ça aussi. Hein. Il y en a un côté les sauvés et les perdus. Alors les perdus, il faut les gagner, mais il ne faut pas trop se mélanger non plus. Il ne faut pas trop non plus aller de peur de se compromettre, de peur de se souiller. Il y a des sphères de la société, il y a des domaines, il y a des lieux, il y a des endroits dans lesquels on n'ose pas trop, où il y a des personnes même, qui, en fonction de leur choix, qu'ils soient sexuels ou politiques ou philosophiques, avec qui on n'ose pas trop trop fréquenter, parce qu'on ne sait pas. Et puis Dieu dit, mais... Est-ce qu'il n'y a pas des barrières là? Est-ce qu'il n'y a pas des murs dans nos têtes qui font que finalement on prive ces gens de notre présence? Est-ce qu'on aurait peur de se souiller? Est-ce qu'on aurait peur d'être contaminé? Est-ce qu'on aurait peur de se compromettre? Je crois qu'une des choses que Dieu va faire de nouveau dans l'Église aujourd'hui, c'est cette capacité qu'il va nous donner de pénétrer des domaines et des sphères de la société, des catégories, de populations dans lesquelles on n'ose pas trop, parfois, qu'on n'ose pas trop fréquenter, pour toutes sortes de peurs et de réserves ou de blocages, mais que Dieu appelle au salut, que Dieu appelle pour leur révéler sa grâce. Vous savez, Jésus, c'est l'exemple parfait pour ça. Jésus était l'homme le plus saint, le plus parfait que la terre ait jamais porté, n'est-ce pas? Il contenait en lui-même la puissance de Dieu, la présence de Dieu. Il était le sanctuaire de Dieu, il était le temple du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu dans sa plénitude était incarné dans sa personne. Et c'est lui qui est allé au-devant de tous ceux qui étaient écartés, rejetés. Il a franchi les barrières sociales, les barrières morales, les barrières religieuses. Il a fait exploser ça. Il l'a fait quand il est allé auprès de la Samaritaine, Nous, on lit ça, on sait bien, les Samaritains et les Juifs n'avaient pas de... Mais on n'imagine pas la puissance de ce mur qui séparait les deux populations. Il a franchi ce mur. Et ce n'est pas simplement un mur sur le plan religieux, mais c'est sur un plan social aussi, parce qu'il est allé parler à une femme. Il y a une conférence qui se... Alors, je vais peut-être être un peu provocateur, mais ce n'est pas de moi, là, cette fois. C'est le titre d'une conférence qui va être donnée dans quelques jours en Alsace, et dont le titre est... Jésus, l'homme qui aimait les femmes. Un ange passe. Hein ? Dans quel sens ? Non, pas dans le sens de l'impureté, mais dans le sens qu'il a restauré la dignité de la femme de multiples façons. Il l'a fait avec cette Samaritaine. Il l'a fait avec la femme accusée d'adultère. Qu'il a restauré, qu'il a réhabilité. J'ai jamais compris. Enfin, si. Si on se place dans le contexte légaliste de la religion, on peut comprendre. Mais sinon, moi j'ai toujours compris que pour être, commettre adultère, il fallait être deux. Mais les pharisiens n'amènent que la femme au pied de Jésus. Et c'est à elle qu'il va révéler sa grâce, sans condamnation. Il ne va pas faire de compromis. Il ne va pas nier le péché et la faute. Mais il fait grâce, et dans la grâce de Dieu... qu'il manifeste là, il restaure, il sauve, il libère. Des fois, on me dit, oui, mais il a quand même dit, va et ne pêche plus. Mais il ne l'a pas dit sur un ton légaliste. Il ne l'a pas dit comme une condamnation ou comme un avertissement. Il l'a dit avec une parole créatrice. En disant cela, il lui a donné le pouvoir de changer de vie et de ne plus commettre le péché. Va et ne pêche plus, ce n'est pas une parole qu'on doit se dire, qu'on doit subir comme un joug, on se dit, voilà, il faut faire plus que je pêche. Non, non, c'est une puissance qu'on reçoit pour rejeter et renoncer au péché, la puissance de la nouvelle vie. Et c'est ce qu'il a fait pour cette femme. C'est ce qu'il a fait avec Marthe et Marie. Vous savez, on raconte beaucoup de choses sur Marthe et Marie. Hein. On parle de l'écriture, et parfois notre compréhension de l'écriture, elle est sclérosée, elle est vraiment limitée. Alors on sépare, il y a les Marthes et les Maries, il y a ceux qui aiment la présence de Dieu, l'adoration, etc., et puis qui prient, et puis celles qui, ou ceux qui travaillent, qui servent. Moi je suis Marthe, moi je suis Marie. Mais c'est une aberration totale. Parce que bon, le texte ne veut pas dire ça. Mais au-delà de ça, dans la relation de Jésus avec les femmes, qu'est-ce qui se passe ? Marie, elle n'avait pas simplement, on ne lui reproche pas simplement. Marthe ne lui reproche pas simplement de ne pas l'aider, mais elle ne supporte pas une chose, c'est que, en fait, n'avait le droit d'être dans la présence de celui qui était considéré comme rabbin que les hommes. Il n'y avait pas de femmes disciples, les femmes n'avaient pas le droit d'être disciples d'un rabbin. Et quand Marie se met au pied de Jésus, dont Jésus dit qu'il a achevé la bonne part, elle vient, elle s'intègre au groupe des disciples. Elle franchit une barrière morale et sociale de l'époque qui était incompréhensible. Et Jésus l'accueille. Il dit, il a choisi la bonne part, non pas parce qu'elle ne travaille pas, mais parce qu'elle avait compris qu'elle pouvait elle aussi être disciple de Jésus. Alors, je crois que Dieu fait des choses nouvelles. Il élargit notre compréhension. Il nous fait avancer dans la marche à l'écoute de son esprit. Parfois, ça peut être insécurisant, mais si la parole de Dieu s'éclaire, si la vision, si l'inspiration, si l'intuition se fortifie dans la présence de Dieu, alors eh bien, on peut avancer avec force et avec confiance. Dans ce texte de Pierre, ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a d'autres précautions que Pierre prend. Je le présente maintenant comme pionnier, comme celui qui va un peu franchir des barrières, mais il n'agit pas de manière insensée. Et l'autre caractéristique que je vois dans sa vie, c'est la sagesse avec laquelle il gère cette nouveauté que Dieu fait dans sa vie. Ce n'est pas parce que Dieu fait des choses nouvelles qu'il faut aller dans tous les sens et être un peu farfelu et puis perdre un peu ses repères. Non, non, non. Pierre, en plus de l'appui de cette parole de Dieu qu'il entend, en plus de cette audace de marcher dans l'esprit, il prend une précaution. Il s'entoure de 6 personnes. Il y a 2 textes, vous lirez dans Actes 10 et 11, il y a 2 textes qui disent qu'il n'est pas parti tout seul. Et ça, c'est important, vous savez. Il n'est pas parti tout seul, il est parti avec 6 hommes, alors c'était des hommes, ça contredit un peu ce que je viens de dire, mais peu importe, pour cette fois. Et quand il va être mis en cause par ce qu'il a fait, parce que son entourage ne comprendra pas, on va y revenir, il aura l'appui de ceux qui ont assisté avec lui à cet événement. Je veux dire par là que quand Dieu nous montre des choses nouvelles, il ne les montre pas qu'à nous seuls. On n'a pas raison contre tout le monde. Parfois, on fait partie d'une minorité. Quand on a avancé dans la vision du royaume de Dieu, quand on a avancé dans la dimension des ministères dans la société, des ministères de la diversité et des ministères dans la société, on n'était pas très nombreux dans notre famille d'église. Plutôt, notre famille d'église n'était pas... Il n'y avait pas beaucoup de monde dans le monde évangélique. Notre famille d'église était dans cette position-là. On nous a regardés avec suspicion. Mais on s'est appuyé sur ceux qui partageaient la même vision, à qui Dieu avait révélé les mêmes choses. Pas pour avoir raison contre les autres, mais simplement pour vérifier. Vérifier que ce qu'on a reçu, ce qu'on a entendu de Dieu, ce vers quoi on va, n'est pas un fruit de notre imagination, mais c'est bien à la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que l'Église est importante. C'est pour ça que la famille de notre réseau est importante. Parce que Dieu ouvre des voies, il ouvre des voies nouvelles, mais il ne les ouvre pas pour une personne ou deux comme cela qui avancerait de manière hasardeuse. Il les ouvre et il révèle ces voies à plusieurs personnes qui s'encouragent, qui se fortifient, qui ne cherchent pas à s'opposer à ceux qui n'entrent pas dans cette vision, mais qui cherchent simplement à conforter ce que Dieu leur dit. Hier, on était par exemple avec un ensemble de personnes à qui Dieu a parlé de cette vision du royaume de Dieu, de la diversité des ministères, des réseaux apostoliques, cette réalité dans laquelle nous sommes dans notre famille d'église. Des gens qui avancent, qui regardent ça, qui aspirent à cela, mais qui ne le vivent pas parce qu'ils ne sont pas dans un contexte qui permet de le vivre. Mais le fait de se rassembler, le fait de s'encourager, le fait de dire, ben voilà ce qui est possible, voilà ce qui est... Ben ça donne du courage. Et c'était bon de voir ces personnes dire, ah ben finalement, c'est possible. Mais oui, c'est possible d'entrer dans ce que Dieu fait. Mais pour cela, on a besoin de parler. Ne partez pas sur une vision, une révélation seule, sans l'avoir échangé, sans l'avoir vérifié avec vos responsables, avec votre communauté. C'est important d'être soutenu. Hein. C'est ce qu'on appelle, nous, la communion ou la couverture, ou je ne sais pas, peu importe l'expression. Mais on a besoin d'être ensemble. Parce que, et c'est notre point, c'est le cinquième caractéristique de ce qui se passe quand Dieu fait des choses nouvelles, c'est que la contestation arrive, l'opposition arrive. Là, je viens de parler de la protection, de la précaution que Pierre a prise. En vue de quoi ? En vue de ce moment où les apôtres, l'Église, impressionnant ça, quand il revient de chez Corneille, il lui dit « Mais tu es rentré dans la maison d'un homme impur !» Et ça a chauffé. Les relisez dans Acte 11, ça soulevait des oppositions, mais c'est impensable, c'est inimaginable ce que tu as fait là. On est dans l'Église, on est entre nous là, je peux continuer sur ce registre-là, on est dans l'Église. Et pourtant, il y a des sensibilités différentes, il y a des convictions différentes, il y a des cheminements différents. Pierre, c'est clair, on le sait aujourd'hui, hein, si on devait voter aujourd'hui qui a raison et qui a tort, on voterait pour Pierre, n'est-ce pas ? Mais replacez-vous dans le contexte de l'époque. L'Église est là, les apôtres sont là, et Pierre est tout seul. Oh, bien sûr, il a 6 hommes avec lui, mais il y a les autres apôtres de Jérusalem. C'est pas rien. Et ces gens disent, mais tu as fait une chose interdite. Et Pierre va s'expliquer. Il va dire, voilà le cheminement que j'ai suivi. Mais voilà aussi ce que Dieu a fait, puisque le Saint-Esprit est venu sur cette assemblée. Et quand ils ont vu ça, alors, ils ont fini par, la Bible dit, ils se calmèrent. Oui, ils se calmèrent. C'est-à-dire qu'avant, ils n'étaient pas calmes. Hein. Moi, j'aime l'Église des actes, vous savez, parce que c'est la vérité. On est sur des relations vraies, franches. Il y a des convictions qui s'affrontent, mais on est sous le regard de Dieu. Pas un problème de s'opposer, pas un problème de ne pas être d'accord. L'important, c'est d'être sous le regard de Dieu et d'être capable de se remettre en question quand Dieu nous convainc, non, on s'est trompé. Je vais oser dire que les apôtres qui s'opposaient à Pierre se sont trompés. Ben oui, c'était des hommes. Ils se sont opposés à ce que Dieu allait faire de nouveau à travers Pierre pendant un temps. Mais il y a eu de l'opposition. Et si on avance dans ce que Dieu nous montre de nouveau, d'inédit, on va soulever l'opposition, la contestation. Est-ce qu'on a peur de ça? Ah, on n'aime pas, hein. On ne va pas chercher la contestation, on ne va pas la provoquer. On ne va pas la susciter par plaisir. On n'aime pas ça. Mais l'Église est faite, l'histoire de l'Église est faite de ça. L'histoire de l'Église en général et l'histoire des Églises locales. Quand on avance ce que Dieu fait de nouveau, il y a de l'opposition, il y a de la contestation parfois. Et il faut l'affronter. Il ne faut pas chercher à la fuir par compromis en disant « Non, il faut que tout le monde soit d'accord. » Ça, c'est mortifère. Quand Dieu parle, quand Dieu met une conviction sur un nombre de personnes qui avancent dans une voie que Dieu approuve, il faut y aller. Il ne faut pas y aller en disant ouais, « Les autres, ceux qui s'opposent, n'ont pas l'Esprit de Dieu, ou ils sont, je ne sais pas. » On ne cherche pas à juger ni à provoquer, mais il faut y aller. Et c'est ma parole ce matin. Je n'ai pas l'air comme ça, mais je prophétise un peu quand même de temps en temps. Il faut y aller. C'est le chemin de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de l'opposition, de la contestation. Elle est inhérente au mouvement de Dieu. Quand Dieu fait des choses nouvelles, il y a toujours une contestation. Alors je vais prendre encore un exemple de notre réseau d'église, parce que ça ne touche pas nécessairement le local, mais par exemple, quand on a découvert que Dieu nous envoyait en tant que membre du corps de Christ et en tant que ministère, pas seulement dans l'église, mais aussi dans la société. Ça fait des années qu'on enseigne que nous pouvons servir Dieu dans notre vie professionnelle. Et ce qu'on a enseigné pendant des années, en ce moment, on est en train de mettre l'accent dessus parce qu'on croit qu'il y a une urgence, que le réveil de l'Église ne va pas venir simplement par le nombre de conversions en masse ou de surnaturel. Tout ça va, je crois, va se produire. Mais le réveil va aussi passer par la conscience que chacun est appelé à servir Dieu là où il se trouve. Certains servent dans l'Église. Et nous servons tous dans l'Église par l'adoration, la louange, la prière. Mais certains ont un mandat spécial pour servir dans leur vie professionnelle, quel que soit le domaine, l'éducation, le droit, la finance, les médias, la culture, et puis on peut allonger la liste, peu importe. Dieu envoie des hommes. Et le réveil de l'Église, c'est ça, c'est quand chaque croyant prend conscience de son appel là où il se trouve. Parce que le royaume de Dieu, il passe par chacun d'entre nous. Du temps de Jésus, le royaume était concentré en une personne. Il a envoyé son esprit pour que son royaume s'étende à travers tout le corps de Christ. Les saints ministères dont nous parlons ne sont pas donnés pour que l'Église simplement fonctionne, elles sont données pour que l'Église entre dans son ministère. Et nous parlons aujourd'hui non plus seulement des cinq ministères en tant qu'individus, nous parlons du ministère du corps. Il les a donnés comme apôtres, prophètes, pasteurs, etc., pour l'édification du corps en vue de l'œuvre du ministère. Quel ministère? Le ministère de l'Église. Le ministère que chacun d'entre vous exerce là où Dieu l'a placé. Vous êtes pour chacun un point de contact entre le ciel et la terre. Vous exercez un rôle d'agent du royaume de Dieu. Le monde qui nous entoure n'aura pas d'autre contact avec Dieu qu'à travers vous. Alors il faut que notre conscience s'ouvre, que notre conscience d'être appelé à servir Dieu là où nous sommes, quelle que soit notre fonction, notre position, notre rang social, peu importe, là où nous sommes, dans le quartier, dans l'association, dans l'engagement politique, social, économique, là où nous sommes, professionnellement, nous sommes le point de contact entre Dieu et les hommes. Vous le croyez ça? C'est pas de la prétention, c'est juste, Dieu veut remplir tout en tous. Comment il le fait? Par l'Église. Imaginez ici, si on mesurait la sphère de rayonnement de chacun d'entre nous, les contacts que nous avons, les personnes que nous touchons, que nous rencontrons régulièrement, pas seulement celles que occasionnellement, mais c'est un nombre incalculable. Eh bien, ces personnes-là sont au contact de Dieu à travers chacun d'entre nous. Donc nous parlons de ministère dans la société et pas simplement dans l'Église. Il y a des hommes et des femmes qui doivent se lever comme des prophètes, comme des apôtres dans le domaine de l'économie, de l'éducation, du droit, de la finance. Cet homme dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une incarnation de cela, ce nouveau gouverneur. La Banque des États de l'Afrique centrale, je le répète, parce que c'est un peu loin pour nous, bien sûr, ça paraît. Mais imaginez la Banque centrale européenne, s'il y en avait un chrétien à ce poste-là. Yes. Eh bien, pourquoi pas? C'est arrivé en Afrique, ça peut arriver en Europe. C'est plus compliqué? Ben, Dieu va faire des choses qu'on n'imagine pas, qu'on ne croirait même pas. Alors moi, je veux y croire, parce que je ne veux pas m'opposer à ce que Dieu peut faire. Et là, il exerce un mandat apostolique dans ce métier-là. Et c'est un homme qui est rattaché à l'église, un homme qui conduit la louange dans son église, dont la femme est pasteur aussi dans l'église de Yaoundé. Voilà. Et mais cette notion-là, cette réalité, on y a aspiré, on la vit, bien sûr, mais pas toujours au niveau où on le voudrait. Eh bien, Dieu le fait. Dieu le fait. Mais quand on a commencé à en parler, on m'a regardé avec des yeux. Je suis paru comme un hérétique. Ça fait longtemps. Mais le doute a souvent a perduré un petit peu. Aujourd'hui, ça devient une réalité que tout le monde évangélique est en train d'accepter et de finalement, on commence à y aspirer. Voilà, l'opposition peut exister, mais ce n'est pas grave. Quand on a parlé du royaume de Dieu, de l'espérance que nous avons, de voir la présence de Dieu toucher toutes les sphères de la société, vous savez ce qu'on m'a dit ? Ah oui, mais tu veux dominer le monde. Tu veux que l'Église prenne le pouvoir. Oh. Comment est-ce qu'on peut imaginer ça ? Mais voilà, l'Église c'est aussi ça. C'est fait de préjugés, c'est fait de réactions comme ça. Non, il ne s'agit pas de dominer, il ne s'agit pas de prendre l'autorité, de prendre le pouvoir. Il s'agit d'exercer une dimension de service qui va influencer le monde. Le gouvernement auquel nous sommes appelés, je n'ai pas peur du mot de gouvernement, parce que c'est ça le rôle de l'Église, être le lieu de gouvernement de Dieu dans le monde. Mais pas un gouvernement qui s'impose, pas un gouvernement qui contrôle, pas un gouvernement qui détruit, un gouvernement qui sert. Jésus a dit, et c'est lui l'autorité suprême, je suis venu pour servir, et non pour être servi. Que celui qui veut être le plus grand parmi vous soit votre serviteur. Et le rôle de l'Église, quand elle a cette dimension de gouvernement, c'est une dimension de service, une dimension de témoignage. On n'est pas de ces évangéliques qui veulent contrôler le monde, comme certaines émissions de télé voudraient nous le faire croire. On est simplement des croyants qui veulent témoigner, rayonner de la présence de Dieu. Et donc, du coup, qui exerce une influence dans le monde. Est-ce que vous croyez que ce matin, dans le temps que nous sommes en train de vivre, nous avons adoré Dieu, célébré son nom, nous sommes dans une position de gouvernement. Est-ce que vous avez conscience de ça ? Parce que nous élevons un autel, nous élevons la présence de Dieu. Et ce n'est pas que pour nous faire du bien. Ce n'est pas juste un aller-retour entre Dieu et nous. Ce n'est pas ça. Nous sommes là dans un rôle de sacrificateur et de peuple, un royaume sacrificateur, et ce que nous vivons est en train de retomber dans cette région, cette ville, cet environnement, ce territoire. Quand Noé, après être sorti du déluge, a bâti un autel, il est dit qu'une agréable odeur monta vers l'Éternel. Et l'Éternel dit, jamais plus je ne jugerai la terre par un déluge. Juste un autel, juste un moment de reconnaissance. Eh bien, c'est le symbole, quand nous sommes là ce matin, moi je crois que le Saint-Esprit est à l'œuvre, que les anges sont en mouvement dans ce lieu et dans tout ce territoire, avec toutes les églises, bien sûr, qui sont rassemblées pour célébrer le Seigneur. Et donc, il y a un gouvernement de Dieu qui s'établit. Des fois, on dit, ah, mais comment ça fait qu'il y a tant de misère, tant de catastrophes dans le monde, mais que si Dieu existait, imaginez ce que serait le monde si les chrétiens n'étaient pas là pour, par leur présence, leur prière, leur intercession, éviter au monde, justement, encore plus de drames, encore plus de souffrances, encore plus de tragédies. Bien sûr, nous aimerions tellement qu'il y en ait encore moins, mais je crois que par notre présence, nous sommes en train de servir la société dans laquelle nous sommes. La présence de Dieu est en train de toucher le quartier, la ville, et il y a quelque chose qui se passe dans la ville de Lyon, dans la région, dans le pays, dans toutes les nations, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Le peuple de Dieu bénit l'Éternel, bénit l'Éternel, bénit l'Éternel. Et en faisant cela, nous sommes un moyen de bénédiction pour le monde qui nous entoure. Et ça, c'est ce à quoi Dieu nous appelle, pas dans une dimension de gouvernement au sens de prise de pouvoir, nation de gouvernement, parce que nous nous opposons aux puissances et aux dominations qui veulent justement détruire, tyranniser, qui veulent flétrir, qui veulent, et elles sont déjà tellement à l'œuvre. Mais je crois que nous contenons, d'une certaine façon, le déferlement de l'enfer par la présence de Dieu, par la communion avec Dieu, par tout ce que nous vivons, par tout ce que nous sommes au quotidien. Et je crois que ça, c'est notre appel, notre destinée. Et on se réjouit de cela. Alors, oui, nous sommes un lieu de gouvernement, mais dans ce sens-là. Et enfin, je terminerai par là pour dire que cette vision, cette nouvelle direction que Pierre reçoit, dans laquelle il avance avec beaucoup de timidité, tâtonnement, finalement, Dieu vient mettre son sceau. Je l'ai dit tout à l'heure, quand il annonce l'évangile, la puissance de Dieu vient sur ces gens. C'est le fruit de ce que Dieu nous dit, de ce que Dieu nous amène à vivre, qui va révéler, qui va légitimer ce que nous vivons. Nous n'avons pas besoin de nous défendre, nous n'avons pas besoin de nous justifier, mais le fruit, la bénédiction, le salut, la grâce, la paix, la joie, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Quand ça se répand, quand ça se manifeste, alors ça s'impose. C'est le sceau de Dieu. Et finalement, je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, ceux qui s'opposaient finissent par accepter. Acte 11, verset 18. Après avoir entendu cela, après avoir vu le fruit, après avoir été témoin de ce que Pierre leur a dit, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu. On peut se calmer par dépit en disant, bon, peut-être. Non, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu. Et donc là, eh bien, c'est la dimension de la réconciliation et de l'unité qui fait qu'on peut valider ce que Dieu nous a montré, les nouvelles directions, les nouvelles orientations dans lesquelles Dieu nous conduit. Parce qu'il y a une bénédiction et il y a un accord pour cela. Vous croyez ? Alors, que Dieu est en train de faire une œuvre qu'on ne croirait pas si on nous la racontait. Mais moi, j'ai envie qu'il me la raconte un peu quand même. Hein. Je n'ai pas envie de me la raconter moi. Hein. J'ai envie que Dieu me le raconte, ce qu'il veut faire. Mais nous ne sommes pas capables de recevoir tout ce qu'il va faire de grand et de nouveau. Il nous en dit un petit peu, des bribes comme ça. Et déjà, on a du mal à le croire. Alors, s'il nous disait tout ce qu'il va faire, on ne serait même pas capable de l'accepter. Alors, peu importe. L'important, c'est que dans le peu qu'il nous révèle, on avance. On avance dans la foi, non pas dans le mépris, non pas dans le jugement. Oh là là, non, on avance dans la foi, dans la confiance, confiance d'un enfant, dans la communion les uns avec les autres, mais dans l'audace aussi que Dieu veut nous donner pour entrer dans le projet de Dieu. Amen. Alors on va célébrer ce Dieu. Et je voudrais vraiment terminer par une prière en invitant tous ceux qui sont confrontés à un défi personnel à recevoir cette parole. Dieu est en train de faire dans votre vie une œuvre que vous ne croiriez pas, même si on l'a racontée. Je ne dis pas que Dieu va répondre à toutes vos prières. Je ne dis pas qu'il va vous donner l'exaucement de tout ce que vous attendez, de la façon dont vous l'attendez. Hein. Il est souverain. Hein. On n'est pas là pour lui dicter. Des fois, bon, je ne vais pas refaire une autre prédication, mais des fois, quand on prie, on dicte à Dieu ce qu'il devrait faire. Hein. On lui fait la liste de nos courses. Seigneur, fais ceci, fais cela. Et puis ça ne marche pas, vous avez remarqué ça. Ouais. Un petit peu comme ça, de temps en temps, mais ça ne marche pas beaucoup parce qu'il est souverain. Et parfois, nous, on a une courte vue. On voit les choses dans les médias, mais Dieu a un projet plus grand. Il a son amour et vise le meilleur pour nous et pas toujours le plaisir que nous voudrions et que nous recherchons. Alors, je ne dis pas que Dieu va faire tout ce dont on rêve, tout ce qu'on porte, mais je dis que dans sa souveraineté, il va nous conduire bien plus loin. Et ce sera encore mieux que tout ce qu'on a pu imaginer ou espérer. On va le croire. Et on va dire, Seigneur, sors-moi de mon mépris. Ben, des fois, à l'intérieur, comme ça, on dit, ouais, j'ai déjà entendu, parle. Allez. On va évacuer ça. On va proclamer ce que Dieu est capable de faire. Je vais vous inviter juste à proclamer ce texte qu'on connaît bien, mais que j'aime particulièrement. C'est la prière de Paul dans Éphésiens 3, versets 18 à 20. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment, au-delà de tout ce que vous pouvez penser ou demander, à lui soit la gloire, dans l'Église, en Christ Jésus et dans toutes les générations. Parce que Dieu est un Dieu de génération. Ce que je ne verrai pas, plus le temps passe, plus je sens que le compte à rebours a commencé, mais je sais que les générations qui vont venir verront ce à quoi j'ai aspiré et ils le vivront encore plus. Je n'ai pas peur, nous n'avons pas peur pour les générations qui viennent. Beaucoup de jeunes parents hésitent à avoir des enfants, en disant, mais quel monde pour nos enfants. Ça se comprend, évidemment, mais dans notre espérance, nous ne sommes pas dans une vision défaitiste et inquiétée ou inquiétante du monde qui vient. Nous sommes dans la foi que même si le monde qui vient va être marqué par certaines souffrances, dans ce monde-là, Dieu va faire aussi des choses grandes et puissantes. Et nous voulons voir dans les générations qui viennent tout ce que Dieu va accomplir pour sa gloire. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Christ Jésus, dans toutes les générations. Amen. Alors maintenant, ça s'écrit, vous pouvez le voir. La mémoire, c'est bon. On va marcher par la vue, et pas par la foi, mais par la foi quand même, et on va le dire ensemble. On va reprendre ce texte. On va se lever et confesser ce texte. Et on va le recevoir pour nous-mêmes. On va le recevoir pour l'Église. On va le recevoir pour notre nation. On va élever ce Dieu qui fait toujours, toujours, toujours infiniment au-delà de tout ce que nous pensons, demandons ou pensons. Pas dépensons, c'est pas, j'ai compressé les deux mots, mais on va lui rendre gloire. Et on va croire au miracle de Dieu. Je crois qu'il y a des murs qui doivent tomber, il y a des inquiétudes, il y a des craintes, il y a des blocages qui doivent sauter simplement parce qu'on accueille ce Dieu qui agit à sa dimension et pas à la nôtre. Or, ensemble, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Encore. Or, à celui qui peut faire puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. C'est nous là qui on apprécie la louange et la musique, elle nous porte, mais c'est nous qui confessons la parole de Dieu. Alors on va confesser la parole de Dieu le temps qu'on a besoin pour la croire et pour la recevoir et pour la vivre. Et on est soutenu par la louange, mais la louange ne remplace pas notre confession de foi. C'est clair ? Et on y va, on recommence. Oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église, en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Une dernière fois, permettez-moi d'insister encore une fois, après je prie. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Acclamons. Alléluia. 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 Prions ensemble sur ces paroles-là. Proclamons encore. Acclamons et bénissons ce Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut penser, qui nous propulse en avant, qui nous fait sortir de nos ornières, de nos traditions, de nos enfermements, et qui nous entraîne dans le mouvement de son esprit, dans le mouvement de son action au nom de Jésus. Seigneur, nous t'accueillons, nous célébrons ton nom, nous croyons que tu es à la mesure de tous les défis, de tous les besoins que nous rencontrons et que tu es largement au-delà de tout cela. Et nous proclamons que tu agis et que tu agis puissamment au nom de Jésus. Amen. Laissez la foi s'exprimer dans votre cœur. Laissez la foi monter. Laissez l'espérance monter. Laissez la révélation encore être renouvelée. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Encore, 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 encore. Nous marchons là sur la puissance de l'incrédulité, sur la puissance du doute, du mépris, sur la puissance de l'enfermement et de la tyrannie du diable. Nous sortons de nos prisons pour proclamer et accueillir la grandeur du projet de Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans nos vies professionnelles, dans l'Église et dans notre nation, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut parler en langue pendant quelques instants? On est ensemble, on peut applaudir, parler en langue, célébrer, proclamer et avancer dans ce que Dieu nous montre. Alléluia. Alléluia. Seigneur, fais-nous rentrer encore, toujours plus, propulse-nous, secoue-nous dans notre inertie parfois et fais-nous entrer dans tes projets. Amen. Gloire, 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 gloire. À toi la gloire. Dans l'Église, dans nos vies et au siècle des siècles. Amen.